pendant une heure et demie sur scène, puis ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Mm-hmm. Puis quand c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un proche de moi. T'es arrivé une couple de fois. Ma blonde me dit...
On dirait qu'il
frappe c'est pas
plus
de la
fort.
Stupidité, ça, Jean. Tu sais, quand t'expliques c'est quoi de la stupidité, là,
ouais.
Ce que t'es pas en train de faire là ou ce que t'es en train de faire là, ça rejoint pas ta définition de la stupidité. La différence entre l'ignorance et la stupidité, pour te compléter l'exemple, l'ignorance, c'est de ne rien savoir. Très peu de gens sont ignorants. On sait pas mal qu'après le printemps, vient l'été, puis après la pluie, vient le beau temps, puis un plus un, ça fait deux. Donc, très peu de gens sont ignorants. La stupidité, ça, pas mal tout le monde l'est. Tu l'es, je le suis, on l'a tous été, dans nos actions, nos paroles ou nos pensées. Et quand moi, je dis aux gens qui sont, mettons, pour prendre l'exemple qui me vient en tête par rapport à ma blonde, qui sont gros par choix, parce que tout le monde remplit son panier de merde. J'ai jamais vu un sac de chips me passer de l'étagère au panier d'épicerie. Il y a quelqu'un qui le met dedans. Puis on va encore manger chez McDo, puis on passe encore 30 heures par semaine devant notre télé, écouter la télé, puis au lieu d'aller prendre une marche, ben j'ai un petit peu de poids à perdre. Puis ma blonde a dit, t'as pas été encore t'entraîner cette semaine? C'est-tu pas ça, la stupidité? Parce que la stupidité se définit ainsi, savoir quoi faire, puis pas le faire. Pire, faire le contraire.
Exact.
Elle dit, tu le sais qu'il faut que tu te lèves derrière, mon grand, puis que tu manges mieux pour perdre du poids. Mais là, tu as passé la semaine à me dire que non, j'ai pas été m'entraîner.
C'est ça.
Puis j'ai mangé des ailes de poulet. Puis... Fait que t'es stupide.
Mais ça, Jean, c'est le pendant. Tu as fait tes formations et tout ça. T'en as appris plus sur toi, sur tes comportements. T'as fait tes conférences et tout ça. Mais moi, c'est plus le avant. T'sais. Puis je vais te donner un exemple. Je vais te faire rentrer dans ma vie privée. J'essaye le plus possible de faire une maison sans crier chez nous. Mm-hmm. OK? Parce que je me dis que quand tu vis dans une maison où les gens ne crient pas, c'est une maudite belle ambiance ouais. familiale. Puis, là, il y a de ça quelques semaines, j'ai été excédé par mes enfants qui n'écoutaient absolument aucune de mes directives. Ils étaient dans le sous-sol, puis ils se tapaient l'un sur l'autre. Moi, j'ai deux petits loups, là, puis mes deux loups sont très vigoureux, puis ils s'amusent. Puis même s'ils ont 2-3 ans de différence, Jean, ils se montent la tête l'un sur l'autre. Puis là, ben, je les avertis. Après ça, je leur parle de conséquences. Après ça, je leur dis, écoutez, là, je vous l'ai dit, là, voici les étapes qui vont arriver. Puis là, ils étaient rendus comme à la deuxième étape. Et la troisième, c'était, ils s'en vont se coucher.
Oui.
Jean, il était 17h30, là. Puis là, je me suis dit dans ma tête, là, ça n'a pas de bon sens d'y coucher à 18h, là. 17h30. Là, je suis en haut dans la salle de bain, ben, il y a trois étages chez nous, il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, puis le sous-sol. Fait que je suis en haut complètement, puis je suis en train de faire ce que j'ai à faire. Puis là, je les entends qui se vargent encore sa tête. J'entends le plus jeune crier au meurtre, tu sais bien. Et là, je suis en train de bouillir, je suis en train de rager, puis je te rappelle que moi, ma maison, c'est une maison sans crier. Là. Jean, j'ai lâché le plus gros whack de la terre. Là. J'étais complètement sorti de moi-même. J'ai gueulé comme pas possible, mais je me suis rendu compte en gueulant que mes deux enfants étaient à côté de moi, derrière moi. Là. Ils arrivaient dans le passage, ils ont eu la peur de leur vie. Et j'ai dit, là, vous autres, c'est terminé, vous allez vous coucher. Ouais, mais non, il faudrait qu'on se brosse les dents, on n'a pas pris notre dessert. Pas de dents, pas de dessert, vous allez vous coucher à 18h. Ça m'a pris 2 semaines à m'en remettre, mais il a fallu que je me pardonne.
Ouais.
Parce que je considérais qu'en criant, j'avais fait une erreur. Ça allait à l'encontre de mes valeurs. Mais en plus de ça, j'avais crié au meurtre et je les avais... Tu sais, la sentence était assez sévère pour moi dans mon cas. Je n'ai pas à donner des grosses sentences normalement. Mais ça m'a pris 2-3 semaines là, à me pardonner de ça. Mm-hmm. Puis pendant 2-3 semaines, je me sentais pas bien.
Ouais.
Puis on se traite de mauvais père ou on se traite de mauvaise mère, parce que j'imagine qu'il n'y a pas juste les pères qui font des erreurs. Parfois, il faut se pardonner, je pense.
Leur en as-tu parlé?
Je leur ai demandé pardon. Papa, c'est trop choqué.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Je leur ai demandé pardon.
Exactement. Tu sais, à un moment donné, tu connais les expressions, on ne pète pas un bouton en le flattant, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est des parfaits imparfaits. Oui, tu as cette valeur-là de vouloir faire une maison sans crier, mais tu l'as échappé. Ouais. C'est normal parce que tu n'es pas un robot. Un robot n'aurait pas crié.
Non,
il est programmé pour ne pas crier, mais toi, tu es un humain.
Je peux te dire que ce soir-là, Pavarotti, c'était rien à côté de moi quand j'ai crié.
Mais, à quelque part, les jeunes s'en souviennent quand même. Puis après ça, si tu as pris, toi, si tu as eu la sagesse d'aller t'excuser et de leur dire, vous le savez, là, papa, là, il veut une maison où on ne crie pas. Ben voyez-vous, j'ai fait une erreur. Et je l'admets, puis je m'en excuse. Ben ils vont se souvenir que papa a eu l'humilité d'aller s'excuser. Puis ils vont se souvenir de cette fois-là, puis peut-être qu'ils ne le referont plus non plus.
Oh non, c'est sûr qu'ils vont le refaire. Ils l'ont refait le lendemain. mais moi, je me sentais pas bien. En fait, j'ai réagi tout à fait différemment. Je leur ai simplement dit qu'il y avait du hockey en fin de semaine qui s'en venait. Il y avait des tournois de hockey. Puis que s'ils voulaient avoir leur tournoi de hockey, ben, fallait qu'ils respectent les règles chez papa et chez maman. Mm-hmm. Parce que nous, on est un couple séparé, mais on est un couple qui se complète, un ex-couple qui se complète très bien au niveau parental. On est les deux meilleurs amis du monde, ce qui fait en sorte que ce qui se passe la semaine, si jamais il y a des conséquences, ça continue la fin de semaine chez nous. Moi, je les ai à chaque fin de semaine, du vendredi jusqu'au lundi. Elle, elle les a la semaine. Puis une fois de temps en temps, elle se prend un samedi avec ses bébés, c'est certain. Mais c'est ça. C'est important parfois quand on va au-delà de ce qu'on pensait y aller, de se pardonner à soi-même puis de demander pardon à qui on a fait du tort.
Tout à fait. Puis ça, c'est encore là, on peut embarquer sur ce sujet-là. C'est... Tu sais, mon sujet à moi, comme je le disais tantôt, c'est le sens des responsabilités. Puis j'ai une petite formule par rapport à ça qui est tellement simple, mais qui semble tellement compliquée pour les gens. Tu sais, tu le sais que t'as gaffé. Tu sais, you screwed up, là. T'as fait une gaffe ou t'as fait quelque chose que t'aurais pas dû. Un, elle, l'humilité de te regarder dans le miroir et te dire, OK, ça, là, c'était pas correct. Ça, là, j'en prends l'entière responsabilité ou une bonne partie de la responsabilité. Un. Deux, va t'excuser aux gens à qui... que tu as blessé peut-être dans cet agissement-là. Trois, apprends. Hein, apprends de ça. Puis quatre, passe à d'autres choses parce que la prochaine connerie va venir assez vite. Exact. C'est une petite formule qui est super facile, qui est super... En fait, elle est simple, mais elle semble pas très facile à appliquer parce que peu de gens l'appliquent. Mais il faut se permettre ça. Puis tu sais, souvent, tu le sais, la phrase qui résume l'ensemble de mon propos comme conférencier, comme auteur, c'est « Votre vie est de votre faute ». La faute n'étant rien d'autre que les conséquences de nos pensées, paroles et actions, conséquences positives ou négatives. Mais prendre la responsabilité de sa vie, c'est pas culpabilisant. « Votre vie est de votre faute », c'est pas un propos culpabilisant, c'est un propos ultimement libérateur. Si tu fais ces quatre choses-là, prends la responsabilité. Là, on n'a pas 15 ans, on est rendu adulte. On est capable de dire, ben oui, OK, c'est de ma faute. Une fois que notre ego est mis de côté, OK, c'est de ma faute. Puis deux, tabarnouche, je sais, je me mets à sa place, puis moi aussi, ça m'aurait blessé. Je vais aller m'excuser. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? OK, c'est clair, net. Puis après ça, tu passes à d'autres choses parce que la prochaine va venir vite.
Exact. Ce soir, on s'attaque à des vaches sacrées. Puis je t'ai joué des tours parce que j'en ai rajouté, moi, des vaches sacrées. Des trucs que j'entends régulièrement puis que je trouve complètement débiles. Peut-être en raison du fait que j'ai fait des petites lectures. Là, ma fameuse ex-blonde là, qui étudiait en psychologie, là, j'ai fait certaines lectures dans ses livres que je trouvais franchement intéressants. Puis il y a des gens qui croient que la vie doit être juste.
Oh ben, crime. S'il y a une première constatation à faire avec la vie, c'est qu'elle est injuste.
Mais pourquoi on grandit et on a l'impression que si on travaille vraiment fort, on va avoir toujours à 100% le résultat de ce qu'on voulait en travaillant extrêmement fort. Si je fais attention à ma santé, j'aurai jamais le cancer. Mm-hmm. Pourquoi on pense ça alors que c'est pas vrai? La vie n'est pas obligée d'être juste avec toi. T'as beau être la meilleure personne, ça se peut que tu tombes sur des personnes extrêmement toxiques dans ta vie, puis c'est pas toi qui l'auras prévu.
Tu viens de donner la réponse. Tu as donné la réponse dans ta question. La vie ne nous doit rien. Tu sais, nos parents, là, on a eu le privilège extraordinaire d'être mis au monde. On ne l'a même pas demandé. Ben, attends, ils ont eu du fun pendant quelques minutes.
Ouais.
9 mois plus tard, on est arrivé.
Ça dépend comment tu vois ça quand tu dis que c'est un privilège, parce que je te rappellerai que la première cause de décès dans le monde, c'est la naissance.
OK. Mais mettons qu'on ne fait pas partie de ceux qui ont décédé puis qu'on est toi puis moi ici aujourd'hui. On a le privilège d'être au monde.
Ouais.
Puis ce privilège-là vient avec un ticket pour passer au buffet de la vie qui a une foule de choses qu'on peut faire, qu'on peut avoir, qu'on peut être dans la vie. Maintenant, ce privilège-là, les gens ont rendu ça comme un... En anglais, ils appellent ça du entitlement. C'est un droit acquis. Parce que je vis, parce que j'ai une bonne attitude, parce que je travaille, parce que je suis une bonne personne, la vie devrait me donner le meilleur de ce qu'elle a à offrir. Ben non. Il y a des fois où ça va fonctionner, puis il y a d'autres fois où ça ne fonctionnera pas. Puis les fois où ça ne fonctionnera pas, on va en tuer une des vaches sacrées du développement personnel. Les fois où ça ne fonctionnera pas, ben il faut apprendre quelque chose de l'échec. On entend souvent, il n'y a pas d'échec, il y a juste des opportunités. Bullshit. Il y a des échecs. Quand tu es rendu au 7e match de la Coupe Stanley puis tu as perdu, c'est un échec. Ben, ouais. Apprends de ça, puis reviens l'an prochain avec des gars plus d'expérience. Tu vas peut-être gagner à un autre moment donné. Mais... La vie comme telle, elle ne nous doit rien. on mérite dans la vie ce pourquoi on se lève le derrière puis on passe à l'action. Peut-être qu'on va avoir ce qu'on voulait. Peut-être, mais ça se peut que non. C'est sûr, par contre, que si on reste sur notre divan, se rouler la mousse dans le nombril, là, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Mais on a comme créé cette... Puis on est pas mal dans ce mouvement-là du développement personnel où on a juste envoyé ça dans l'univers, puis l'univers va conspirer pour nous. Ça a été créé par justement le fameux livre Le Secret, là, la loi de l'attraction, le livre le plus vendu après la Bible. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, ils nous disent qu'on n'a plus besoin de travailler pour être heureux et avoir du succès.
C'est facile.
C'est facile. Tu as juste envoyé ça à l'univers, l'univers va conspirer pour toi. Come on. Fait qu'on est comme dans cette ère-là du... Je pense que c'est notre plus gros... défaut de notre société actuelle, c'est cette mentalité-là de entitlement, c'est-à-dire que ça nous est dû. On a juste à être bien correct, bien travaillé, ça nous est dû. Ben non, il y a des fois que on va l'avoir, puis il y a des fois où on ne l'aura pas, puis quand on ne l'a pas, apprends de ça, puis refais-le, puis recommence, puis tu vas peut-être l'avoir une deuxième fois.
Oui, mais je ne sais pas comment ça nous a été inculqué très jeune, tu sais. Mm-hmm. Je pense juste à ceux qui font vraiment attention à leur alimentation, si ce n'est pas mon cas, je te confirme. Tu sais, ça se peut que parce que tu manges juste de la salade, tu tombes malade, là.
Mm-hmm.
Ça se peut que si tu manges juste de la viande, tu sois malade, mais on dit que la salade, c'est bon pour la santé. Si tu manges ça, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas le cancer.
Mm-hmm.
Ça se peut que tu l'attrapes pareil.
Mets les chances de ton bord.
Oui.
Regarde ce qu'il y a de disponible, autant au niveau nourriture, finances, amoureux, relations. Mets les chances de ton bord, mais prépare-toi au pire, puis tu ramasseras ce qui est de meilleur.
Ouais.
Mais ça se peut que le pire arrive pareil quand même. Tu sais, ma blonde a pogné le cancer. Elle a eu un cancer. C'était pas un cancer du poumon parce qu'elle fume 22 paquets par jour. Elle fume pas pantoute. Mais le cancer qu'elle a eu, qui est traité maintenant, ben elle a pas demandé ça non plus.
Mais non.
Mais faut que tu vives avec. À un moment donné, comme elle me dit tout le temps, il faut que tu passes à travers à ta façon, puis dans le temps que tu vas décider que tu vas passer à travers, puis que tu prennes la responsabilité de ce que tu vas faire de ce malheur-là.
Il y a des étapes,
mais elle méritait pas ça.
Mais non.
Elle méritait pas ça, mais il faut que tu vives avec... Tu sais, la vie nous donne des cartes, puis il faut jouer avec le paquet qu'on a.
C'est ça. C'est la loterie, là.
Ça
se peut que t'aies hérité de ce numéro-là, mais c'est surtout ton attitude que tu vas avoir après avoir eu ce genre de nouvelles-là, comme quoi... je sais pas, moi, il te reste 6 mois à vivre. OK, c'est vraiment une nouvelle vraiment poche, mais tu vas-tu passer 6 mois à gâcher ta vie?
Exact.
À ce qui reste?
Mais vois-tu, au niveau de l'attitude, mon point de vue là-dessus, écoute, quand j'avais ma propre émission radio, le tout premier invité que j'avais eu, il avait écrit un livre, de développement personnel, puis il y avait un chapitre justement sur l'attitude. Le titre du chapitre, c'est « La bonne attitude vous ouvrira des portes ». Fait que je lis ça, moi. Puis avant de le recevoir à mon émission de radio, j'essaye ce qu'il vient de dire dans ce chapitre-là, à savoir que la bonne attitude ouvre des portes. Je m'installe dans mon salon, je m'assois sur mon divan, je regarde ma porte de la salle de bain qui était à moitié ouverte, puis là, je pense à quelque chose qui me fait vraiment triper. Là. J'avais une attitude phénoménale, j'étais heureux, les larmes aux yeux tellement que j'étais bien, puis j'avais une bonne attitude. Je regardais la porte, elle n'a jamais bougé. Elle n'ouvre pas des portes, peut-être. Ça n'a pas bougé.
Mais tu avais une bonne attitude.
Mais j'avais une bonne attitude. Puis lui, il me disait là-dedans que la bonne attitude va nous ouvrir des portes. Ça ne marche pas, son affaire. Non. Peut-être qu'il s'est trompé.
Ou tu l'as pris trop à l'aide aussi.
Peut-être, mais peut-être. Et oui, on joue un peu ces mots. Mais j'ai dit, pour en arriver à mon message, puis j'ai dit, c'est peut-être la mauvaise attitude. J'ai viré ça de bord. Là, j'ai pensé à quelque chose qui me faisait vraiment chier. Puis j'avais une mauvaise attitude. Je regardais la porte, elle n'a jamais bougé. Finalement, j'ai dit, je vais essayer à ma façon, à moi. Je me suis levé avec mon attitude, j'ai mis la main sur la poignée, puis j'ai comme bougé. Christy, la porte a bougé, elle a fermé. Là. C'est pas tant l'attitude que tu as, mais qu'est-ce que tu fais de l'attitude que tu as.
Ouais.
Si ma blonde, après avoir eu le cancer, puis qu'elle est en traitement, puis tout ça, elle a une bonne ou une mauvaise attitude, assise dans son divan, à rien faire, il n'arrivera rien à sa vie. Il faut qu'elle vive avec les nouvelles conditions qu'elle a. Ben, elle s'est levée, puis elle a posé des gestes, elle a consulté, elle s'est aidée, elle s'est fait aider. Puis finalement, elle n'est pas en rémission totale, mais ça va bien. Puis elle a une meilleure attitude parce qu'elle a fait quelque chose de l'attitude qu'elle avait dans le temps qui n'était pas positive.
Ouais.
Aujourd'hui, elle a une meilleure attitude face à la vie. Donc, c'est ce qu'on fait de l'attitude. C'est pas tant l'attitude comme telle.
Tu me parlais du livre Le Secret. Ça a permis à des... Il a vendu énormément de livres. Là. Ça a permis à des gens de lire ça puis de l'essayer. Mais ça doit partir de quelque chose. Parce qu'on regarde les athlètes olympiques. T'sais. Moi, j'aime beaucoup écouter les Olympiques aux 4 ans, là, que ce soit les Olympiques d'hiver ou Olympiques d'été. Je trouve que c'est des gens qui sont au sommet de leur sport, qui sont capables de se dépasser. Puis très souvent, on apprend que c'est gens-là ont des psychologues sportifs.
Ouais, ouais.
Puis je me dis, mais t'as peu, là. Ces gens-là sont au sommet, là.
Mm-hmm.
de leur sport, puis ils ont besoin de psychologues sportifs pour stepper up encore plus. Mmh. C'est dire à quel point, tu sais, que quelqu'un qui est capable de travailler sur ton mindset, comme vous autres vous faites, ouais, une fois de temps en temps, ouais, là, ça peut te permettre de t'améliorer encore plus.
Tout à fait. Tout à fait. Là où le bas blesse par rapport à un livre comme Le Secret, la loi de l'attraction, ils disent que c'est une loi universelle. Ça fonctionne toujours comme la gravité. Si je prends mon crayon, je le laisse à la terre, Christy, il va tomber à terre à chaque fois.
Ouais.
Fait qu'ils disent, eux autres, la loi de l'attraction, c'est une loi universelle qui fonctionne toujours. Le problème avec la loi de l'attraction, écoute, je donnais une conférence à un moment donné en Belgique, puis je dis, levez la main, celles et ceux qui ont déjà lu Le Secret, la loi de l'attraction. Plein de monde qui l'ont lu. Ouais. Pas mal. Puis je leur ai dit, gênez-vous pas, là, c'est le livre le plus vendu après la Bible dans l'histoire de l'humanité. C'est du livre en baptême, ça, là. Ouais. Et les gens lèvent la main, puis j'ai dit, pire merde qui a jamais été mis sur papier. Tu comprends, là, t'es à l'autre bout du monde, t'es en Belgique.
Merde, mon nom, c'est Jean Nadeau.
Écoute, il y a un monsieur qui s'est levé, puis il était fâché après moi.
Ben, c'est sûr.
Laissez-moi aller avec mon point de vue, puis je vais, après ça, si vous n'êtes pas d'accord, on se rejasera. Mais j'ai dit quand même, je vois la réaction que vous avez, je vais retirer mes paroles. Je vais retirer mes paroles à savoir que c'est la pire merde que j'ai jamais été mise sur papier. Je vais vous dire ça autrement, c'est à moitié vrai. Puis si c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. Puis ouais, quelque chose qui est à moitié faux pour moi, c'est faux. Tu sais, je peux pas dire à ma blonde, chérie, je t'ai pas trompé, je l'ai juste frenché. Non, non, c'est tout ou rien, tu comprends? Puis là où c'est vrai...
Chérie, elle a couché avec moi, mais moi, j'ai rien fait.
Non, non, c'est ça. Je me suis fait agresser. Non, mais là où c'est ce qui est vrai dans le concept de ce qu'il appelle la loi de l'attraction, c'est il faut s'arrêter de temps en temps. Il faut mettre le pied sur le frein, là, s'arrêter, puis penser à ce qu'on veut de la vie. Puis oui, intériorisez ça. Parce que la loi de l'attraction dit, pensez-y, arrêtez-vous, pensez à votre rêve, intériorisez ça, faites comme si ça arrivait de façon à créer en vous l'émotion de ce que vous allez ressentir si ça arrive. Là, on parle de physique quantique. En faisant ça, là, on crée des vibrations apparemment,
okay,
qui montent dans l'univers, puis à un moment donné, l'univers nous renvoie ça.
OK.
Moi, c'est la loi de l'attraction.
Ouais, je voyais plus le psychologique dans ça, c'est-à-dire, tu veux remporter une médaille d'or, tu as 100 mètres à faire, tu connais tous les gens qui sont autour de toi, puis là, ben, tu t'imagines que tu cours plus rapidement, ta course, ça va super bien, tes pas sont exactement comme tu avais planifié pour ton départ. T'sais, c'est vraiment de la visualisation. Ouais. Ben, les psychologues travaillent sur cette visualisation. Mais Yannick,
tout ce que tu viens de dire là, ça, c'est la portion vraie de la loi d'attraction. Ouais. Mais si tu penses à tout ça, ta médaille d'or, tes pas, tout ça, ton départ, puis tout, puis le vent, puis tout. Puis tu restes assis dans ton divan, puis tu y vas pas à course.
Ça marche pas.
Slack, t'as gagneras pas.
Exactement.
Fait que ça, c'est la partie vraie, c'est oui, arrêtez-vous, pensez-y, intériorisez ça, vivez l'émotion. Putain, si ça monte dans l'univers, puis ça revient, vous le prendrez, là, soyez pas innocent. Là, ouais. Mais à un moment donné, il manque l'action.
Ouais.
Puis la loi de l'attraction, c'est ce mensonge-là. C'est pour ça que je dis que c'est la merde qui a été mise sur papier, parce qu'on a fait... On a rendu illusoire l'accès au bonheur et au succès juste en mettant un chèque au plafond puis en le visualisant tous les jours. Puis qu'à un moment donné, on va aller à notre boîte à mal, Christy, puis voir un chèque d'un million. Dans... Ouais. Come on,
hey,
come on.
Tu sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut passer me recruter là-dedans. J'arrive là, moi, c'est un de mes amis. Là. J'arrive là, c'est un samedi après-midi. Il me dit, viens, on va jaser avec des chums à la maison. Fait que j'arrive là, moi, habillé comme je t'habillais là. T-shirt, jeans ou culotte courte, ça allait bien. J'amène mon six-pack de boissons, puis je m'en vais passer une soirée avec mon chum. Et j'arrive là, tu sais, il est dans un logement avec 4-5 gars qui sont habillés en chemise, cravate et tout ça. Je suis rendu? Ah, assis-toi, on a quelque chose à te dire. C'était la compagnie Quickstar. T'as-tu connu ça dans le temps?
Non.
Bon, c'est une compagnie qui était sensiblement comme à Moué et toutes ces affaires-là. Ah, oui, oui. Mais fallait que tu t'achètes un genre de 200$ pour rentrer. Puis après
pyramidal.
Ça, ouais, des trucs pyramidal. Puis quand j'étais allé aux toilettes, parce qu'à un moment donné, boire mon six-pack, il fallait que je me saoule. Je suis sûr que j'allais voir
mon six-pack. Comprendre là, ce qu'il te disait.
Ouais. Mais quand j'étais allé aux toilettes, là, écoute, c'était mon chum. Là, mais du tout au. Tu sais, il a changé. Là. Il y avait au-dessus du cabinet de toilette, il y avait une belle grosse maison. Là, une maison d'un million, deux millions. Là. Il y avait une belle grosse voiture de luxe en photo. Là.
Ouais.
Puis ça...
C'est son tableau de visualisation qu'on appelle.
OK.
Ouais, il appelle ça de même. Le tableau de pour visualiser ce que tu veux du futur.
Ouais, c'est ça. Mais c'est la même affaire que le secret, là.
Bien, encore là, j'ai pas de problème. Faites-vous-en des tableaux de visualisation, mais à la fin de la journée, demandez-vous quelle action vous avez faite pour vous rapprocher de ça.
Exact.
Mais c'est pas ça que les gens font. On a mis dans la tête des gens qui ont lu le livre, puis en quantité industrielle, comme je te dis, c'est le livre le plus vendu après. T'as juste à y penser, les vibrations. L'univers va conspirer pour toi. Are you guys crazy? Comment? Tu sais, il faut que ça fasse du sens à un moment donné.
Jean Nadeau, le cerveau, il est-tu paresseux de nature?
Je ne sais pas s'il est paresseux comme tel, parce que, tu sais, je pense que, tu sais, souvent dans le développement personnel, ce que les gens veulent faire, c'est de changer leur vie, tu sais, passer d'où ils sont à où ils veulent être. Puis les trois raisons pour lesquelles ils ne changent pas, ils ne font pas ce move-là, une des trois raisons, c'est la paresse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça par des grands sages là, du développement personnel là, qui disent « la connaissance est le pouvoir ». Ben non. C'est pas la connaissance qui est le pouvoir. Parce qu'avec ta belle connaissance, si tu t'installes sur ton divan avec ta connaissance à te collectionner fil d'araignée entre les deux fesses, puis sans passer à l'action, tu n'en auras pas de changement dans ta vie.
Ouais.
Lève-toi le derrière, puis passe à l'action. Fait que je pense pas que le cerveau soit paresseux parce que les gens, en théorie, s'alimentent de nouvelles connaissances, mais en font-ils quelque chose? C'est là qu'ils deviennent paresseux.
Parce que les gens qui y vont étape par étape, là, comme tu nous expliques, sont rares. Là. Mm-hmm. La plupart des gens réfléchissent, disent de quelle façon je pourrais atteindre mon objectif de façon la plus rapide possible. Puis bien souvent, ils prennent même pas la peine de se lever puis de faire les premiers pas vers leur objectif final. Ils se disent juste, oh non, c'est trop loin.
Ouais. Ça, ou ils commencent à l'envers. Tu as déjà vu ça, là. Mettons, je vais prendre mon exemple à moi. Je veux perdre du poids, je tombe au régime, fais attention à ce que je mange à partir d'aujourd'hui, puis je recommence à m'entraîner. Je commence à changer. Ça, c'est la troisième étape. Je veux changer mon poids, puis la première étape que je fais, c'est de commencer à changer. C'est la troisième. La première étape du changement, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, trois petites étapes très simples. La première, prenez la décision. Prenez l'engagement officiel et respectez votre engagement à le faire. Ça fait que ça, c'est la première étape, prendre la décision de le faire. La deuxième, puis c'est celle que les gens skippent tout le temps, qu'ils ne font pas, la très grande majorité ne font pas cette deuxième étape-là. Et pourtant, c'est la plus importante. Arrêtez de faire ce que vous avez toujours fait qui ne fonctionne pas. Avant de commencer à changer, commencez par changer, par arrêter de faire ce que vous faites qui ne fonctionne pas. Mm. Tu sais, dans la vie, là, tu ne deviens pas riche. Tu dois commencer par abandonner ce qui te rend pauvre. Tu ne deviens pas soudainement riche. Commence par abandonner ce qui te rend pauvre. Tu ne deviens pas heureux. Commence par abandonner ce qui te rend malheureux. Tu ne deviens pas enchanté. Commence par abandonner ce qui te rend désenchanté. Fait que, décide de changer. Arrête de faire ce que tu as toujours fait qui ne fonctionne pas. Puis, bâtisse après ça, change.
Ouais.
Puis, persiste.
C'est si simple, hein, quand on t'écoute.
En fait, la vie est simple. La vie est simple.
Ouais.
Mais il n'y a pas personne qui nous a dit que ça serait facile. Il n'y a jamais personne qui nous a dit que ça serait facile.
Ouais. Parmi les gens qui ont pris du coaching avec toi, là, ces gens-là, bon, à un moment donné, ils prennent du coaching, puis ils sont régulièrement suivis, tu leur jases et tout ça. Ça dure combien de temps, ça, cet élan d'énergie-là là, que tu leur donnes? Parce que là, tu changes la vie de ces gens-là.
Hé, crème, on va commencer par ça. Tu reviendras sur ta question du changement.
Jean, change ma vie, Jean!
Non, justement, celles et ceux qui croient que nous changeons, nous, les coachs ou les conférenciers ou les auteurs en développement personnel, qui croient qu'on change des vies, vous n'avez absolument rien compris. Et je ne vous en veux pas de ne pas avoir compris, parce que 99 % des gens de mon industrie vous disent qu'ils peuvent changer votre vie.
Exactement.
Venez à ma conférence, je vais changer votre vie. Lisez mon livre, je vais changer votre vie. Non, on ne change pas de vie. J'ai assez de travail à changer la mienne. Je ne commencerai pas à présumer que je peux changer celle des autres.
Ouais.
Je peux peut-être avoir un impact, puis c'est là-dessus que je vais répondre à ta question de base, je peux peut-être avoir un impact sur leur vie, mais faire quelque chose de leur vie, changer quelque chose, ça leur appartient. Si je changeais des vies, toutes les personnes qui ont assisté à mes conférences ou qui ont lu mes livres, ces centaines de milliers de personnes-là, ils auraient tout changé aujourd'hui. Ils n'ont pas tout changé. Pourquoi? Non. Si c'était moi qui les avais changés, ça aurait marché pour tout le monde. Ça n'a pas marché pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a pris la décision de changer. Donc oui, on peut avoir un impact sur les gens, mais c'est pas nous qui changeons leur vie. Maintenant, l'impact que moi j'ai, C'est un impact qui est peu, sinon même pas. Je ne connais pas personne dans mon industrie qui a cette approche-là. C'est l'impact du malaise, du mal. Tu changes d'envie quand ça va pas. Moi, quand j'ai le nez dans la boîte, là, tabarcela que je change.
Ouais.
J'aime pas ça, avoir le nez dans la boîte.
C'est le malaise, des fois, qui nous fait évoluer.
Exactement. Ouais. Tu sais, si tu as mal aux dents actuellement, tu as un Christi de mal dedans, là, puis je te dis, garde. Pour 500$, là, j'ai une pilule. Tu vas me faire ton chèque right now.
Sure.
Right now, parce que tu veux te débarrasser de ce maudit mal dedans-là qui te rend fou. Tu mets beaucoup plus d'efforts à t'éloigner ou à mettre de côté ou à ne plus avoir un malaise que de continuer à caresser ton petit statu quo qui est peut-être plus à l'aise, puis continuer à avoir des petits minous blancs, puis des tisanes de testicules de babouin, puis d'écouter Yanni, puis d'être dans le bien-être. On travaille beaucoup plus fort. Tu viens de pogner sur la testicule de babouin.
Ouais, non, j'ai Yanni dans ma tête, là, avec l'image, le gars avec les cheveux longs, puis tout.
Donc, moi, c'est cette approche-là. Ouais. Je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables parce que, avec certains aspects de leur vie, parce que je me dis, c'est comme ça que tu améliores ta vie le plus en faisant de tes moments inconfortables ou de tes inconforts des conforts. Pas juste en caressant ce qui va bien. Puis, notre industrie du développement personnel est majoritairement conçue pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu vas aller changer quoi? Si tu as une conférence, puis la personne sur scène fait juste te dire le même gribouillage qui a toujours été dit, puis que c'est exactement ce que tu voulais entendre, parce que sur le coup, ça te fait du bien. Une fois que les lumières se ferment, que le conférencier est parti, puis que les ballons sont au plancher, puis tu es tout seul chez vous, là, tu vas faire quoi?
Rien.
Tu fais absolument rien. Tu n'as rien à réfléchir.
J'ai une belle soirée. J'ai été diverti.
Exactement. Et ça, c'est du entertainment personnel.
Ouais.
Mais si tu arrives chez vous, puis que tu as du poids à perdre, puis Nado, tu as fait chier en te disant que tu étais gros par choix. Une fois que tu vas avoir mis le speaker de côté, la personne qui a lancé le messager, une fois que tu vas avoir mis le messager de côté, puis que tu vas rester avec un malaise ici, là, dans le cœur, tu crives, comment ça que j'ai encore mal? Lui, c'est juste un conférencier, mais comment ça que j'ai encore... Christy, il avait peut-être raison. Puis c'est là que je pense que les gens commencent à changer parce qu'ils réalisent le mal qu'ils ont. Bien plus comme ça. Ben, c'est mon approche à moi. Mais tu sais, moi, j'ai aucun problème. Les gens qui sortent de mes conférences, habituellement, leur premier commentaire, c'est « ils m'énervent ».
Ouais, c'est ça. Mais hein? Moi, ce qui me fait... Puis c'est la raison pour laquelle je t'invite, là, c'est que, tu sais, t'es raide un peu dans tes propos, t'es très drastique, puis, tu sais, quand...
Tough love.
Mais je me dis tout le temps, quand les gens sont dans la salle, puis ils t'entendent comme... Tu sais, ils t'entendent dans ton discours... Et qu'il y en a qui doivent être inconfortables. Là, parce que la majorité des gens ont le cerveau paresseux et ils veulent se faire dire ce qu'ils aiment bien entendre. Puis, ah, j'ai eu des frissons et tout ça, mais en bout de ligne, ça donne à rien.
Yannick, si les gens sortent de ma conférence et ils sont pas inconfortables, j'ai pas bien réussi avec eux.
Ça.
J'écoutais Patrick Roy hier qui donnait une entrevue. Puis à un moment donné, il parlait des ex-joueurs des Remparts et tout ça. Puis il a parlé de Jonathan Marchessault.
Audie
Marchessault, qui est à Vegas maintenant. Puis bon, j'étais relié par familialement avec lui dans le temps, dans une autre vie. Puis, je me souviens très bien, Pat, il était tough avec John. Tabarnouche, qui était tough. Puis, il le disait encore dans l'entrevue. Il dit, prenais un gars comme Marchessault. Il dit, j'étais tough avec lui parce que je savais quel joyau il était, mais il se pognait le cul, puis il était indiscipliné. Oui.
Ce qui a été confirmé par Marchessault aujourd'hui.
Lui-même, il l'a dit lui-même aujourd'hui. John, maintenant, grâce à Patrick, mais regardez où ce qui est rendu aujourd'hui.
Ouais,
Pat, il l'a pas flatté, là.
C'est ça. Je voulais rien savoir, j'étais tout le temps dans les bars, ouais. Ça allait bien mes affaires et tout ça.
Il était. Tu sais, les chats, ça commençait, là, tu sais, les Snapchat, puis les échanges, puis tout ça. Puis. Puis, tu sais, il y a quelqu'un, je ne dirais pas le nom, mais il y a quelqu'un des Remparts qui s'était créé un nom, un compte, Natacha quelque chose, là, tu sais. Mais, tu sais, c'était un des gars du staff. Puis, Natacha, là, après le couvre-feu de 11 heures, des gars, là, Natacha, des fois, contactait John ou quelqu'un d'autre, puis il jasait jusqu'à 2 heures du matin. Hey, quand on vous donne un couvre-feu, les gars, là, à 11 heures, là, c'est parce qu'on joue demain. Là, couchez-vous, Batins. Lâchez Natacha. Puis c'était pas une vraie Natacha, c'était Roger, Batins.
Ouais, mais c'est ça. Je veux pas savoir si c'était Patrick Roy qui se faisait passer pour Natacha.
Non, je vais taire le nom. Mais wow. C'est ça. Mais à un moment donné, c'est avoir la réalité d'en face que quand on l'a d'en face, qu'on fait quelque chose avec. Mais tu sais, se faire miroiter que tout va bien, puis que quand l'attitude va, tout va, puis qu'il n'y a rien d'impossible, tout, c'est pas vrai. Tu sais, on est payé pour faire la job qu'on fait. Soyons vrais. Disons la vérité, au moins celle qu'on pense.
Hey Jean, on va faire tomber un autre, comment t'appelles ça tantôt?
Les vaches sacrées. Du développement personnel bonbon.
Oh, c'est encore une autre affaire que je t'avais pas dit que j'allais te parler. Quand une femme vient te voir puis te dit, Jean, j'ai fréquenté 6 gars, tous des trous de cul, comment ça je suis pas chanceuse demain?
Je pense que j'ai déjà fait une série d'entrevues. En fait, j'ai fait partie de chroniqueur pour une série d'entrevues pour un site là, de célibat. Et je pense que, pas juste les femmes, là, toute personne qui veut entrer en relation, gars avec gars, fille avec fille, peu importe, devrait faire sa propre son introspection personnelle sur la responsabilité qu'elle a de sa vie. Je reviens sur la responsabilité qu'elle a de sa vie. Parce que Est-ce que tu sais, mettons là, je sais pas ton décompte, là, mais mettons que tu as eu 10 blondes dans ta vie.
Mais Colin, tu passes ce mois-ci? Non, je suis un homme fidèle.
OK. Mettons que tu en as eu 100.
Des okay? vraies blondes, j'en ai eu 4.
OK, bon.
Je suis loin de ton décompte à toi.
OK, bon. 4 blondes que tu as eues dans ta vie. Si tu t'arrêtes 2 petites secondes, là, on fera pas un grand blanc radio avec ça, là, mais si tu arrêtes quelques secondes, là, quel est le dénominateur commun de ces 4 relations-là?
Hey, moi, c'est tout positif. Là. Tu vas me trouver
poche comme candidat. Le dénominateur commun de toutes ces relations-là.
Ouais, ça m'aidera pas en même temps, mais c'est très positif, c'est l'empathie. Des filles extrêmement empathiques.
Là. Vois-tu, là, tu mets ça sur eux autres. Le dénominateur commun, là,
ouais.
principal, là, c'est toi. Tu étais là à chaque fois. Tu as été là dans chacune de ces relations-là,
ouais.
puis tu as été là dans chacune de ces ruptures-là.
Oui.
Avant de rembarquer dans la cinquième, là, arrête-toi donc et regardez quelle part de responsabilité que tu avais, toi, là-dedans, parce que tu étais là à chaque fois.
Mais tu veux dire dans les échecs?
Oui.
OK, mais l'empathie n'a pas rapport des échecs.
Non, c'est ça.
C'est mais... plus, non, c'est plus le fait que je travaillais pas, j'ai jamais vraiment travaillé sur mes couples. Tu sais, ça, c'est mon problème à moi. J'ai jamais vraiment travaillé sur mes couples. Tu sais, je mettais plus l'emphase sur, tu sais, t'es-tu bien? T'es-tu confortable? T'as-tu besoin de quelque chose? Mm-hmm. Mais c'était pas, regarde, on va faire une petite soirée en amoureux. C'est pas à Saint-Valentin, okay. on va faire une petite soirée en amoureux.
Mais ce genre de constat-là, ouais. là, les gens ne font pas ça. Ils embarquent ouais. d'un autre couple, ils rembarquent okay. d'un autre couple, ils rembarquent d'un autre couple. Arrête-toi. Avant d'embarquer, là, fais le constat de qui tu es puis la responsabilité que tu as eue dans les break-ups ouais. que tu as eus avant de rembarquer dans le prochain.
Oui. Mais moi, c'était ça. Tu sais, je ouais. le sais, j'ai jamais vraiment travaillé sur mon couple, ce qui faisait en sorte que le couple s'essoufflait puis la partenaire devenait une amie. Tu sais, c'est carrément ça qui est arrivé avec la mère de mes gars. C'est mon ami. Tu sais, il n'y a jamais eu. Là, tu vas halluciner quand je vais te dire ça. Tu vas sûrement me dire, t'es un malade. Mais il n'y a jamais eu de chicane.
Okay.
Le ton n'a jamais levé. On s'est juste dit, hey, on serait rendu comme à une autre étape de notre vie, puis on va passer à d'autres choses. Mm-hmm. Puis oui, ça nous a fait de la peine chacun de notre côté, mais on est encore des amis, puis nos enfants sont pas en garde partagée, sont tout le temps avec nous mm-hmm. autres. Tu sais, des fois, ils sont chez papa, des fois, ils sont chez maman, mais on s'appelle à tous les soirs,
mm-hmm.
Incluant la fin de semaine ou la semaine, on s'appelle ouais. à tous les soirs, puis on jase. Mais moi, c'est ça. Mon gros problème, c'est que je travaillais pas sur mes couples.
Et là, le prochain, où es-tu en couple actuellement?
Oui.
Il travaille-tu à ton couple actuellement? As-tu pris cette décision-là de dire, ça a été ça mon problème, t'es-tu rembarqué dans celui-là, puis tu dis, oh, on verra ce que ça va donner sur celui-là, ou tu t'es dit, oh, peut-être que là, je faudrait que je travaille sur mon couple.
C'est
t'es en train de faire une thérapie publique, là.
Ça me gosse.
J'espère que ta blonde n'écoute pas.
Je peux pas te dire la vérité.
on ferme les micros, dis-moi la vérité.
Ben, j'essaie d'être le meilleur gars possible, mais je suis pas le gars qui travaille régulièrement sur mon couple. Bon, puis pourtant, je pense pas être un mauvais gars. Il n'y a jamais une fille qui m'a laissé. Là. J'ai tout le temps fait mon possible, mais des fois, je sais qu'il aimerait peut-être plus de moi, puis on dirait que je suis pas capable de le donner.
Te souviens-tu de ma définition de la stupidité?
Oui, je m'en souviens.
Savoir quoi faire, puis de pas le faire. Hein? Pire, faire le contraire. Tu le sais que c'est ça qui a été le dénominateur commun de tous tes autres couples, c'est que tu travaillais pas assez sur ton couple, puis là, tu es dans un couple, puis tu travailles pas encore sur ton couple.
Ah ouais.
Ça va finir comment?
S'il y a bien quelque chose que je voulais pas avoir dans ma tête, c'était Jean Nadeau constamment.
D'après moi, tu vas avoir un petit talk avec ta blonde en soirée.
Ouais, mais je te promets de réfléchir.
Tu sais ce que la pire chose qu'un homme veut entendre, peut entendre de sa blonde?
C'est quoi?
C'est ce que tu vas entendre ce soir quand tu vas arriver chez vous.
Ah oui?
Chérie, faut qu'on se parle.
Ah.
Oh qu'on ait eu ça, hein? Chérie, faut qu'on se parle. C'est clair, ça l'écoute ça, là.
Ouais.
D'après moi, là.
Mais le pire, c'est que j'ai déjà abordé.
J'arriverai avec des fleurs, moi, à ta place ce soir.
Le pire, mais j'arrive avec des fleurs. Saint-Valentin, j'arrive avec des fleurs.
Okay.
Mettons à sa fête ou encore dans le temps des fêtes. Tu sais, j'essaie d'être le meilleur des conjoints possible.
Mais penser à ton couple, c'est pas juste à Saint-Valentin et à sa fête.
Mais c'est ça, tu sais. Tu sais, quand une fille dit « Ah, mon chum m'a fait une surprise ce soir, il m'a amené au théâtre voir telle pièce alors que c'était pas prévu », ben je sais pertinemment que c'est pas ma blonde qui écrit ça.
Ouais, là.
Ouais. Ouais, exact. C'est ça. Toi, ça va, toi, tes affaires?
J'aimerais ça que je te dise quelque chose qui va pas pour me renvoyer la pierre. Mais sais-tu quoi? Ma relation de couple n'est pas parfaite. Il n'y en a pas de relation parfaite. On a nos hauts et nos bas, pareil comme tout le monde.
Ouais.
Mais si tu t'arrêtes pas pour regarder ta part de responsabilité dans les bas et dans les hauts, ben tu t'amélioreras jamais.
Jean, je te jure, je vais changer. Rien n'est impossible.
Ouais, ouais. Ça, c'est probablement une des... ça a été longtemps celle que j'ai varlopé
oui.
dans l'industrie du développement personnel.
T'as fait ça à coup de pique? Hein?
Ça, c'est... Non, mais c'est la pire des conneries, ça. Puis c'est sur ça, l'élève de tout le monde, rien n'est impossible. Écoute, J'ai joué au hockey élite toute ma vie jusqu'à 21 ans, jusqu'à la fin du junior. J'étais sur deux listes de la Ligue nationale. J'ai pas été repêché, fait que j'ai décidé d'aller aux études, j'avais plus le choix.
Mais t'avais la shape!
J'avais la shape. J'étais gardien de but en plus, fait que j'avais plus besoin de bouger bien bien, gardien de stature.
Mais là, tu gardes ça encore les buts? Non, non, on cherche un goaler pour boulevard,
non,
là.
Non, non. Écoute, je
fais. Fais-tu le grand écart?
Non, non. Et Christy.
T'es-tu capable, mettons que t'es.
J'aurais de la misère à attacher mes patins aujourd'hui.
Mettons que t'es debout, t'es-tu capable de faire une genre de. Tiens, un swing de pied dans les airs?
Ouais, celle-là, oui. Oui. Mais à terre, en split comme ça, peut-être que non.
Mais admettons, je te redonne la même position. T'es debout, là, puis il faut que tu donnes comme un coup de pied dans les airs, puis faut que tu. Avec ta main, là, faut que tu rejoignes ta main. Ouais. Là, je te mets comme dans un costume. Es-tu capable de faire ça?
Je serais sûrement encore capable de le faire, mais ça serait probablement le seul geste que je faisais versus tout ce que j'avais à faire sur ce à quoi tu fais allusion. Revenons au hockey. Revenons au hockey. Canadien de Montréal, j'ai toujours... Tu sais, les Nordiques sont passés, puis je travaillais pour les Nordiques. J'étais un Nordique. Mais malgré que j'ai haï pour mourir, là, le rouge du Canadien, le logo du Canadien... Quand j'étais ticu, je rêvais de jouer pour le Canadien. J'y rêve encore. Je te jure, je fais encore des rêves à 60 ans comme gardien de Canadien de Montréal. Il y a les gens qui me disent « Rien n'est impossible. » Si tu y crois suffisamment, oui. Si tu y penses, puis tu focuses là-dessus, puis tu as un bon mindset, c'est possible. Je dis, hey, t'as par slack. Les jeunes, là, les primo puis tout ça, ça a 20, 22, 23 ans. Ça fait le 60. Split. Ça fait le vrai split. Puis moi, si j'embarque dans un but, c'est clair que je pars par en arrière, puis je tombe sur la tête, puis je me fais une commotion. On l'a oublié ça.
Ouais.
Ah ouais, mais genre, loue-toi, loue la glace du Centre Bell, achète-toi un gilet du Canadien. Hey, t'as peu, change pas mon rêve juste pour que ça fitte avec ton affaire de « rien n'est impossible ». C'est impossible. Moi, je travaille beaucoup plus avec l'improbabilité que l'impossibilité. C'est improbable, ton projet, Yannick. C'est très, très improbable que ça arrive. Mais ça a des chances d'arriver. Ça se peut que ça arrive. C'est possible. Je vais être le meilleur secondaire pour toi. Je vais être en arrière de toi. I'm gonna kick your ass jusqu'à temps que ça arrive. Je vais être ton meilleur motivateur pour ça. Mais si mon fils adore la Formule 1, il s'enligne pour mesurer 6 pieds et 1 et peser au-delà de 230 livres. Non. Attends, je peux pas, moi, comme papa, impossible. Qui est dans le développement personnel, aller lui dire, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, mon petit loup, rien n'est impossible. Christy, sa cuisse ne rentre pas dans le cockpit, tu comprends?
Tu peux pas enlever 200 livres au char.
Je peux pas y mentir avec une connerie comme ça en lui disant que rien n'est impossible. Je vais lui dire, va plutôt en ingénierie puis va travailler pour Ferrari. Ben ça, oui. Tu vas te rapprocher de la Formule 1. Mais tu ne seras pas pilote de Formule 1. Puis là, ceux qui croient que rien n'est impossible vont dire, ben, il n'y a rien qu'à faire des courses de Monster Truck, encore une fois. Change pas son rêve juste pour faire fitter ta phrase. Mm-hmm. Elle n'est pas bonne, cette phrase-là. Arrêtez, mes collègues conférenciers, le message s'adresse à vous. Arrêtez de monter sur scène pour prendre des gens pour des valises puis leur dire des mensonges. Vous êtes payés pour ça. Allez leur dire la vérité. Soyez plus lucide et pragmatique.
Oui, effectivement. Hier, je salue Marie-Claude, si elle nous écoute. Marie-Claude est une agente immobilière, puis elle m'a parlé de la vie de sa mère. Sa mère a été à la maison, mais aussi en affaires avec son père pendant des années et des années. D'ailleurs, il y avait le stand à Cornet en face du château Frontenac. Super de bel emplacement. C'est-tu comment ça coûtait louer ça par année pour les gens qui avaient
faut ça? Faut t'en vendre du Cornet?
150 000.
Wow.
150 ça fait du cornet, 000 ça? Pièces. Oui, mais là, elle me disait que les cornets, ça coûtait comme 30 cents à faire, puis ils vendaient ça 5 pièces.
Oui, c'est exact.
Ouais. Fait que là, tu sais, j'avais un peu moins d'empathie. Là. Mais ce qu'elle me racontait, c'est que sa mère, à 42 ans, elle a décidé d'aller à l'université puis faire son doctorat pour devenir médecin généraliste. Et aujourd'hui, à 78 ans, elle pratique toujours. Je pense que c'est sur la Côte-Nord, de mémoire, là. Mais elle pratique toujours à 78 ans. Combien de personnes à 40 ans qui nous écoutent, qui auraient donc bien rêvé d'être médecin, qui pourraient se permettre de faire ces efforts-là?
Exactement.
Puis de se dire, regarde, ma vie va recommencer à partir de 50
ans. Vos rêves ne se réaliseront pas. Grande affirmation, vos rêves ne se réaliseront pas. Vous allez peut-être les réaliser, mais pour ça, encore une fois, il faut que vous en preniez la responsabilité puis que vous le vouliez assez pour faire tout ce que vous savez avoir à faire pour y arriver.
Ouais.
Parce que si tu fais juste y rêver, ça devient un mirage puis ça n'arrivera pas.
C'est ça, mais elle s'est mise en action
exact.
À 42 ans, genre, puis à 50 ans, elle a commencé à pratiquer la médecine. Pense-y 30 secondes, mais l'énergie ça, que ça doit prendre.
Dans ma toute première conférence, avant, quand j'étais un pelleteux de nuages comme toutes les autres, là, avant d'être dans le distribution de coups de pied au derrière, j'avais une histoire, je ne me souviens pas de son... Rosa Clark. Rosa Clark, c'est une madame aux États-Unis qui est sûrement décédée maintenant. Elle avait 72 ans. Et il y a une journée où elle gardait son petit garçon, le fils de sa fille, puis qui avait quelque chose comme 7-8 ans. Puis ils reviennent de faire l'épicerie, ils rentrent dans l'entrée, puis l'entrée avait une petite pente. Fait qu'elle sort de là, elle prend le premier sac d'épicerie, puis elle rentre en dedans. Puis elle rentre dedans, elle, amène, elle entend un cri, là, un cri de mort, de l'enfer. Elle sort dehors à la course, à 72 ans, puis le jeune, l'auto avait reculé un peu, puis le jeune est en dessous d'un des pneus d'en arrière. Là, les voisins accouraient, puis tout ça. Madame Clark, là, est sortie, puis les voisins l'ont vu, là, ils l'ont dit. Elle a soulevé l'aile de l'auto en arrière suffisamment pour qu'un voisin arrive à tirer le jeune de là. 72 ans, elle a réussi à faire ça. Tu comprends que c'est impensable. Là, les journalistes sont arrivés, tout le monde voulait parler à Mme Clark, comment vous avez fait ça, puis elle n'a jamais voulu donner d'entrevue, jamais voulu donner d'entrevue là-dessus. Puis, à un moment donné, elle était dans un centre commercial plus tard, quelques mois plus tard, puis il y a un étudiant en journalisme de cette ville-là qui la croise, puis il dit, faut absolument que je m'essaie, il faut que j'aille la voir. Fait qu'il va la voir, il se présente, puis la madame, elle dit, non, je ne donne pas d'entrevue. Il dit, madame, je ne veux pas vous parler de... je ne veux pas vous parler précisément de l'accident, mais je veux vous parler de comment vous en êtes arrivé à 72 ans, à lever ça, l'accident, c'est, les conséquences, tout ça, c'est une autre chose. Mais il dit, pourquoi vous n'avez jamais voulu donner d'entrevue là-dessus? Puis elle a dit, parce que j'ai honte. Là, tu dis, t'as honte de quoi? Elle dit, j'ai honte, après avoir réalisé cette chose-là qui est totalement improbable, pas impossible parce qu'elle l'a fait, mais improbable, après avoir réalisé ça, j'ai eu honte de me dire, tout ce que j'aurais voulu faire, puis que je ne l'ai pas fait, puis qui était improbable, puis qui aurait été peut-être difficile, puis que je n'ai pas fait dans ma vie, j'avais honte de regarder en arrière et de dire, pourquoi je n'ai pas fait ça alors que j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça alors que je viens de faire ça? Elle dit, sur un paquet de projets, bien, il dit, un, par exemple, de vos projets, elle dit, moi, j'ai toujours voulu être, comment tu appelles ça, ceux qui aiment les roches, là, les, un rochologue, là.
géologue, je m'appelle.
Peut-être géologue, quelque chose de même. Baptisons-le, c'est en anglais, c'est un rochologue. Ouais. Rochologue. Puis le gars, il a dit, puis elle a dit, ben pourquoi vous étudiez pas là-dedans? Elle dit, j'ai 72 ans, c'est un cours de 4 ans, je sortirais de là à 76 ans. Ben il dit, Madame Clark, dans 4 ans, vous allez de toute façon avoir 76 ans. Batin, c'est allé faire son cours. Elle est allée. À 72 ans, tu allais étudier les roches, puis elle est devenue rochologue à 76 ans.
Géologue,
oui, c'est ça. Géologue. Mais c'est ça, à un moment donné, si tu as des rêves, oui, planifie ça, puis lève-toi derrière pour aller faire.
Puis pourquoi je te parle de ça, c'est que je me suis dit, parce que là, j'osais, là, Marie-Claude, elle me donnait un livre, puis j'osais avec elle, puis après ça, moi, j'aime ça réfléchir, tu sais, à la discussion que j'ai eue avec l'individu. Ouais. Je me suis dit, cette dame-là, à 42 ans, quand elle a jasé avec les gens autour en disant, je m'en vais à l'université, puis je vais devenir médecin.
Exact.
Toutes les gens qui étaient autour, qui n'ont jamais réussi à réaliser leur rêve, qui n'ont jamais mis les efforts.
Ben voyons donc.
J'imagine qu'ils voulaient son bien. Ouais. Ils ont tous dit, ben voyons, à l'âge que tu as, c'est impossible.
C'est sûr. Mais ça ne l'était pas, parce que c'était possible. Tu as juste à aller faire les études. À 45 ans, tu es capable d'étudier autant qu'à 20 ans. Là, t'sais. Mais c'était peut-être improbable. Avec la carrière qu'elle avait, elle avait peut-être des obligations financières. Il fallait qu'elle continue à travailler au lieu d'arrêter pendant 4 ans pour aller étudier. C'était improbable, mais elle l'a fait.
Mais le 45 ans de l'époque n'est pas le 45 ans d'aujourd'hui. T'sais, aujourd'hui, un homme de 60 ans équivaut à peu près à 40 ans de l'époque.
Ah, oh, peut-être.
Quand tu regardes peut-être, ça. Ouais. Mais
je pourrais, même à 60 ans, je pourrais aller faire mes études en médecine maintenant.
Oui.
Je sortirais de là à 66 ans médecin. Bon, il me resterait une moins longue carrière, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est
elle fait toujours 60 heures par semaine, mais moi, c'est plus le fait que cette femme-là s'est probablement fait décourager par toute son entourage. Mais voyons, t'as des jeunes enfants. Mais voyons, ton mari a besoin de toi pour les business. Pourquoi tu t'en vas étudier à l'université? Puis quand elle est sortie, elle faisait du 100 heures par semaine. Puis là, on me dit qu'à 78 ans, elle fait toujours 60 heures par semaine.
Un des conseils que je donne en coaching, si tu as des projets, parle-en au moins de personnes possible.
Ah, pourquoi?
Parce que justement, il y a plein de monde qui va te regarder. Tu fais là, ils vont être plus là pour te décourager que t'encourager.
Ces gens-là, veulent-tu vraiment ton bien, Jean? Ou ils veulent juste te tirer vers le bas pour se sentir à même égalité
que toi? Je ne sais pas si jalousie, c'est un bon mot, là, mais c'est une frustration qu'ils ont de voir quelqu'un proche d'eux autres qui ose alors qu'eux autres n'osent pas.
Ouais.
Puis ça les fait réagir de cette façon-là, je pense, à décourager. « Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Ouais, mais ça? » OK, mais trouve-toi-en un projet, puis moi, je t'encouragerai. Mais moi, c'est ça que je veux faire.
Parce que c'est ça. Moi, j'ai voyagé très tôt. Là, quand j'ai annoncé à mes chums que je partais en moto à 16 ans aux États-Unis, là, c'était tout le temps, ben voyons donc, c'est dangereux aux États-Unis, ben voyons donc. Mais je me suis rendu compte que c'est parce qu'eux autres ne se le permettaient pas.
Exactement.
Puis ils avaient peur d'y aller, puis ils considéraient que c'est extrêmement dangereux. Le Maine, là, je t'annonce que c'est pas mal la Beauce. Là.
Oh, la passé Jackman, là, t'es
au
rendu.
Au Launcher, là, c'est pas mal le lac Saint-Joseph.
Exact, exact. Mais c'est sûr que dans le Bronx à New York, en moto, c'est peut-être moins conseillé, mais même aujourd'hui, c'est mieux. Là, mais...
C'est ça. Ça dépend ton degré de soleil. Là, c'est, si t'as été longtemps au soleil, ça se peut que tu passes mieux dans le Bronx que si t'es dans le Bronx que si t'as...
On se comprend.
Exact. Si t'as passé l'hiver ici et t'es pas très bronzé. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Jean Nadeau. C'est un gentil distributeur de coups de pied au derrière. T'appelles-tu encore comme ça?
Oui, tout à fait. Il y en a qui s'amusent à me caractériser ou de me nommer l'incroyable Hulk du développement personnel qu'ils se disent, quand on te voit en dehors de la scène, t'es cool, t'es drôle, t'es comique. Puis quand tu montes sur scène, tabasse là que t'es tough pas mal.
OK, mais là, t'as-tu mis un filtre? Là, je vois que tes yeux sont verts sur ce livre-là.
Ben, parce que justement, dans le temps, au tout début de ma carrière, je faisais beaucoup d'allusions à l'incroyable Hulk. Uh-huh. Écoute, il y a une dame, elle m'a donné à la fin de la conférence, il y avait une petite file d'attente, puis les gens venaient pour acheter le livre, puis j'ai signé tout ça. Il y a une dame qui arrive avec le livre, elle me regarde, elle dit, je suis vraiment déçu, monsieur. À l'arrivée de la conférence, ben, j'ai dit, madame, vous serez pas la seule, puis tant mieux si je vous ai à tout le moins chambardé un petit peu. Elle dit, non, c'est pas la conférence. Comme telle, elle dit, c'est vous avez vraiment pas les yeux verts, je pense. Tu regardes ça, c'est quasiment fluorescent sur la photo.
Ben oui, mais le nombre de femmes que tu as dû décevoir parce que tu n'avais pas les yeux verts, Jean, c'est épouvantable. Son livre, J'ai pas de temps à perdre et vous, c'est un excellent livre. Puis d'ailleurs, je vais faire tirer mon exemplaire. Je l'ai lu plusieurs fois, en fait. Je l'ai adoré. Donc, pour les gens qui veulent avoir le livre de Jean Nadeau, le gentil distributeur de coups de pied au derrière, J'ai pas de temps à perdre et vous, eh bien, je fais tirer un exemplaire ce soir pour ce faire, juste à m'écrire par Messenger. Je vais faire ça sur mon Messenger, puis c'est moi-même qui va me proposer de vous l'envoyer par la poste par la suite. Puis, ben voilà, je vais me libérer de ton livre, là, puisque là, je t'ai dans la tête constamment. Mets-toi en action, Yannick!
Exactement.
Donc, on fait une courte pause, puis on revient tout de suite avec Jean Nadeau.
Marceau, le soir. Le soir. Plus de temps en famille, consommer moins, maximiser notre bonheur, c'est des résolutions faciles à réaliser avec un Rogue 2023 du groupe Pocket. La place pour toute la famille, même le chien, une résolution de cocher. À peine 6,7 litres aux 100 km sur route, une autre de cocher et un maximum de bonheur au volant avec le meilleur VUS de sa catégorie selon les journalistes auto. Venez choisir votre Rogue 2023 prêt pour livraison pendant l'événement d'adrénalinologie chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Pocket-Nissan.
Votre retraite vous préoccupe? L'inflation et vos rendements sont une source d'inquiétude? Utilisez-vous toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements? Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le Matin à Boulevard. Mon équipe et moi vous proposons une deuxième opinion. Offrez-vous sans frais un plan financier complet et vivant et enrichissez-vous en toute tranquillité en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Services financiers, Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Projet de style, les spécialistes en habillage de fenêtres sur mesure à Québec. Stores, rideaux, toiles et motorisations, venez rencontrer nos designers expérimentés qui vous conseilleront avec style. Pour le meilleur service clé en main et une installation rapide et professionnelle, projetdestyle.ca, 18 rue Courcelette.
Coiffeur et coiffeuses, faites affaire avec l'atelier mobile des produits Ciseaux pour affûter vos ciseaux. Depuis 2011, les produits Ciseaux font leur tournée des différents salons pour donner des conseils et entretenir votre outil de travail. Les produits Ciseaux, SIZO.ca.
T'es dans le camionnage? TruckStopQuébec.com. Tu cherches un emploi dans l'industrie? TruckStopQuébec.com. Tu rêves de devenir camionneur? TruckStopQuébec.com. La référence dans l'industrie du camionnage, TruckStopQuébec.com. Plusieurs emplois disponibles sur le web et via Facebook. Suivez-nous.
Groupe Patrimoine a créé pour vous ses premiers condos locatifs dédiés aux 55 ans et plus. Les appartements, le Jules Verne, la vraie vie. Vous recherchez un environnement qui vous permet de profiter pleinement de la liberté? Découvrez les appartements, le Jules Verne, à l'ancienne Lorette. Vous serez séduit par la piscine intérieure sur le toit, les chalets urbains et votre futur condo locatif. Ouverture en juillet. Promotion en cours? Appelez-nous au 418-440-8377. lejulesverne.ca.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois. Cliquez sur nos offres pour en connaître davantage
et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez un chèque cadeau à 50 % de rabais donnant accès au bain de soir à partir de 18 h au Strom Spa. Ou encore un chèque cadeau à 50 % de rabais échangeable au restaurant Pacini de Sainte-Foy et Le Bourgneuf.
un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Pour votre projet de cuisine ou de salle de bain, laissez-vous charmer par la beauté des produits signés Comptoir Noble. Fabricant de comptoirs de granit et de quartz, Comptoir Noble vous offre une expérience client inégalée. Venez choisir votre pierre en grandeur réelle sur place à Saint-Augustin-de-Desmaures. Comptoirnoble.com.
Choisir Catherine Labrec et son équipe Royal Lepage pour l'achat ou la vente de votre propriété, c'est investir dans une transaction de cœur. Son équipe vous accompagne de Portneuf à Beauport en passant par Stoneham. Une visite sur immobiliercelabrec.com vous convaincra de passer votre premier coup de fil.
Ici Vanessa de chez Bernier Auto, votre centre de voitures d'occasion. Problème de crédit? Venez me rencontrer. Je suis la spécialiste en crédit alternatif. Deuxième ou troisième chance au crédit? Je suis là pour vous conseiller, rebâtir votre crédit et vous procurer une voiture certifiée.
BernierAuto.com.
La Cité Jardin du Grand Portneuf offre des terrains boisés en bordure de la rivière et du golfe. Situation géographique enviable au cœur de la nature pour construire votre maison de rêve avec ou sans opportunité de location. Découvrez-nous au citéjardingrandportneuf.ca.
En ce début d'année, vendez votre propriété avec moi, Marilyn Côté-Godreau, courtier immobilier Remax, et gagnez votre certificat de localisation, déménagement et plusieurs prix en collaboration avec Rica Design, Armand Perrault Boucherie et Exact Marketing. Concours.marilynecourtier.com.
Poliquin Travailleurs habille les travailleurs de la tête aux pieds. Grande nouveauté, la marque suédoise Black Ladder est arrivée en magasin. Des vêtements de travail robustes qui se démarquent par leur qualité et leur design. Découvrez la différence Black Ladder dès maintenant chez Poliquin Travailleurs. 3e rue Saint-Romuald.
Pour votre premier achat immobilier, soyez conseillé judicieusement par François Letourneau Cloutier sur les différents produits hypothécaires adaptés à votre situation. François Letourneau Cloutier, courtier hypothécaire Planiprêt et professionnel accrédité de la manœuvre Smith est là pour vous. Visitez la page Facebook François Letourneau Cloutier, courtier hypothécaire Planiprêt.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Ce soir, on est avec Jean Nadeau, le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Pour les gens qui veulent te voir en conférence, qui veulent voir ton type de coaching, peuvent faire quoi exactement? Ils peuvent te trouver à quel endroit?
Ouais, ben en fait, les conférences comme telles, je les fais principalement dans le cadre de congrès, d'associations, des choses comme ça. La conférence individuelle, je l'ai essayé, tu sais, louer une salle, puis vendre des billets, c'est tough. C'est vraiment tough. Parce que, tu sais, de convaincre quelqu'un de payer 25 $ exemple, puis de venir s'asseoir dans une salle puis se faire donner des coups de pied au derrière pendant une heure et demie de temps, c'est pas très vendeur comme tel. Alors qu'en entreprise ou dans le cadre d'un congrès, d'une association, quand je fais le pitch, si tu veux, de vente à la personne décisionnelle, cette personne-là dit « Ah oui, non, toi, il faut que tu viennes faire ça parce que moi, je ne peux plus le faire. » On est dans une ère actuellement où on catine les employés. Les entreprises sont maintenant des pouponnières où il faut s'occuper de tout le monde, petite plante pour tout le monde, un café, un espresso pour tout le monde puis une vue pour tout le monde. Mais il y a quand même des coups de pied au derrière qui se perdent, puis tu viendras les donner, toi. Fait que c'est principalement en entreprise. Donc, si vous êtes dans des entreprises, allez parler de votre patron, puis il communiquera avec moi. Le coaching, j'appelle justement ça des cafés Hulk. J'ai appelé ça au début comme ça, puis j'ai toujours gardé le nom. Ça, bien, si vous êtes dans la région de Québec, on s'en va prendre un café ensemble. C'est moi qui paye le café. Vous me payez mon heure de consultation ou de discussion. Puis habituellement... Tu sais, je suis pas le genre de gars au niveau de la consultation, de coaching, de dire « il faut que tu achètes un programme de 5 rencontres ». Moi, c'est une première rencontre. Si tu en veux une deuxième, on en fera une deuxième. Si tu en veux une troisième, on en fera une troisième. Par contre, tu devras me démontrer, si on en fait plus qu'une, qu'à chaque fois, tu as fait des pas. Tu t'es levé le derrière, tu t'es enlevé les fils de rien entre les deux fesses, puis tu as travaillé sur ce qu'on a jasé ensemble. Écoute, il y a un gars, à un moment donné, ça faisait 5 fois qu'on se voyait. À la fin de la cinquième, il me dit « on se revoit quand ?» J'ai dit « on se revoit pas ». On ne se revoit pas. Tu sais, je mets de l'argent de côté quand je dis ça. Là. Ouais. Je dis, on ne se revoit pas parce que là, ce que je réalise, c'est que ça fait 5 fois qu'on se rencontre, une heure. Tu me dis toujours, hey, c'est bon ça. Hey, ça fait du bon sens. Mais tu ne fais rien. Tu viens juste là, pigrasser, mais tu n'en fais rien. Moi, j'ai le goût que tu en fasses quelque chose. Fait que si tu viens juste pour m'écouter, moi, ça ne m'intéresse pas. Je mets de l'argent de côté, mais bouge, prouve-moi que tu as bougé, démontre-moi que tu as mis en action certaines des choses qu'on a jasées ensemble parce que tu stagnes exactement dans la même position que la toute première rencontre. Puis là, à ce moment-là, j'aurai j'aurai la, pas la fierté, je serai bien dans ma peau de charger un montant pour venir me jaser puis voir où t'en es rendu. Ouais. Donc, si les gens veulent la meilleure façon, c'est de m'écrire par courriel, Jean en commercial, non, excuse-moi, Octopus DMC. Bon, c'est un peu compliqué. Octopus, c'est comme une pieuvre, là. O-C-T-O-P-U-S, comme une pieuvre en anglais. D comme Denis, M comme Michel, C comme Claude, A commercial, hotmail.com. Vous m'écrivez là-dessus, on prend rendez-vous ou je contacte votre patron pour aller donner une conférence à l'entreprise.
Jean Nadeau à hotmail.com, ça te tentait pas?
Oui, mais c'est parce que j'avais déjà un Jean Nadeau quelque chose, puis c'était compliqué. Fait que finalement, je suis allé avec la compliquée. Mais écoute, si tu le veux vraiment, là,
ouais,
tu vas l'avoir pris en note. Si tu le veux pas vraiment, puis que ça passe tout droit, ben, la personne ne l'aura pas pris en note. Octopus DMC. commercial@hotmail.com.
OK. Hey, j'ai intercepté une discussion l'autre jour. Honnêtement, je me rappelle même pas si c'était à radio ou à quincaillerie, là. Mais c'est un individu qui tentait de donner des conseils à un autre. Puis la personne lui a dit, ben cette personne-là m'écoute plus quand je lui parle parce qu'il y a comme l'effet de proximité. Ce qui fait en sorte que si c'est une autre personne que cette personne-là ne connaît pas, mm-hmm, elle va avoir les oreilles un peu plus ouvertes.
Tout à fait.
C'est quoi ce phénomène-là?
C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ben, je pense que oui. T'sais, quand on a un lien d'émotion avec quelqu'un, il y a une certaine retenue qui s'installe parce que tu ne veux pas blesser l'autre personne. Moi, là, quand je dis à quelqu'un, mais je prends souvent l'exemple du poids, là, quand je dis à quelqu'un, t'es gros par choix, je sais que je viens de la varloper, là. Je sais que je viens de la blesser. Exemple, dans ma conférence, je donne plein d'exemples sur ce sur quoi on a la responsabilité dans notre vie. Si t'es cassé, c'est de ta faute parce que t'as pas réalisé encore qu'il faut que tu dépenses moins d'argent que t'en gagnes.
Mm-hmm.
Si t'es gros, c'est de ta faute parce que t'as pas réalisé qu'il fallait arrêter de mettre de la merde dans ton panier d'épicerie. Arrête d'aller manger chez Poulet Frit Kentucky. Ben, attends, si tu prends une bouchée, t'as une artère de boucher. Tu prends une bouchée, puis t'es jammé. Puis arrête de passer 30 heures devant ta télé, puis va prendre une marche à la place. Donc, je leur remets ça d'en face. Et moi, je pense que c'est la façon de le faire. Mais de dire ça à quelqu'un qui est avec lequel j'ai une relation et dans lequel il y a des émotions, que ce soit un ami, une amoureuse ou un enfant, il y aurait une certaine retenue à ne pas le faire. Donc, c'est pas la même chose quand c'est... Écoute, tes parents, okay, ouais, il y a des choses que tu veux essayer de dire à tes enfants, bien, si c'est le prof qui le dit ou le coach de football qui le dit, ça va mieux passer.
Je viens de l'auder. C'était à l'aréna de Saint-Ephraim que j'ai entendu ça. C'était des parents qui discutaient concernant leur enfant. Puis, ça m'est arrivé la même affaire. T'sais, Josh, mon plus vieux, me dit, « Papa, j'aimerais ça être au moins capable de compter un but cette année. T'sais. Qu'est-ce que je dois faire? » Ben, je dis, c'est soit que tu es devant le filet quand vous êtes en zone offensive ou soit que tu vas chercher la rondelle dans le coin puis que tu l'amènes devant le filet ou que tu fais une passe puis tu te diriges tout de suite vers le filet. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que tu sois proche du filet.
Mm-hmm.
Puis quand il m'avait demandé ça, j'avais trouvé ça intéressant. C'est mon gars qui me demande un conseil au hockey.
T'en as-tu déjà compté, toi?
J'y en donne jamais. Ben oui, j'étais un fin marqueur. Ouais, non, non. C'était plus d'un bord, là, mais... Mais sur glace, c'est ça. Tu te tiens devant le filet, puis il y a des chances que tu réussisses à avoir la rondelle.
Dans le trafic.
Puis la mettre dedans, exact. Puis j'étais content qu'il me le demande, mais le match d'après,
il
l'a pas fait.
Okay.
Et tout d'un coup, il y a une pratique, puis les coachs parlent relativement assez fort là, sur la patinoire, ce qui fait en sorte qu'on est en mesure d'entendre ce qu'ils disent à nos enfants. Puis ils disent, les gars, c'est pas compliqué, là. Deux façons de faire. Là. C'est soit que vous vous tenez au filet, ou soit que vous allez dans le coin, puis vous ramenez la rondelle devant le filet. Le match d'après, qu'est-ce qui est arrivé?
Il l'a fait.
Il l'a fait.
Parce que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit.
Mais toi, tu considères que c'est parce que lui, il y a comme de l'émotion? Ben, il y a un lien de proximité qui ne m'écoute pas nécessairement?
Ben, dans ce cas-là, non, pas nécessairement. Peut-être que dans ce cas-là, c'est juste parce que c'est papa qui me l'a dit et on n'écoute pas tout le temps nos parents. T'es qui, toi, pour me dire ça? Hey, lui, c'est un coach. Lui, par exemple, c'est un coach. Lui, c'est ce que c'est un coach. Toi, t'es juste un papa dans les estrades.
Ouais, c'est ça.
Mais lui, c'est un coach. Il accorde de la crédibilité, c'est le coach. Dans ce cas-là, il n'y a pas de tant de lien d'émotion.
OK. Dernier point que je voulais aborder avec toi, l'attitude. Quand l'attitude va, tout va.
On en a parlé tantôt, c'est pas vrai. Moi, j'ai une attitude. Sincèrement, là, je me lance pas de fleurs, mais je pense avoir une attitude assez... une bonne attitude. Je pense que j'suis un jouisseur compulsif. J'aime la vie, je veux jouir de tout.
Mais je jouis!
J'ai une bonne attitude. Mais ça arrive que j'en ai une pas bonne aussi. Puis même si j'en ai une bonne, si je sors d'ici tantôt, puis j'ai oublié de regarder à droite, puis il y a un bus qui me rentre dedans...
Patelard.
Patelard. Tu sais, tu sais, de la merde, là, c'est de la merde. Quand même, tu mettrais du parfum par-dessus, ça reste de la merde. Fait que c'est pas des questions. Encore là, je reviens à ce que je disais tantôt. C'est pas tant d'avoir une bonne attitude qui va faire en sorte que la vie va t'apporter quelque chose de bien dans la vie. Quand l'attitude va, tout va. C'est pas vrai. Si tu sors dehors puis tu te fais frapper, ça va pas. Tout va, ça marche pas. Tu viens de te faire frapper. C'est, comme je disais tantôt, c'est ce que tu vas faire de ton attitude va avoir des conséquences positives ou négatives. T'espères le plus souvent positives. Mais de remettre ça entre les mains de la vie, comme on disait tantôt, la vie ne nous doit rien. Pas parce qu'on a une attitude positive qu'on n'aura pas de merde, qu'on n'aura pas de bad luck. Ma blonde a une attitude positive, puis elle a eu un cancer.
Ouais.
T'as pas slack. C'est ce qu'on fait de notre attitude.
Puis l'attitude positive, ça peut-tu gosser des personnes des fois? Parce que ouais, moi, j'ai une attitude relativement positive, mais c'est rare que tu vas me voir rentrer dans la bulle des gens. Je suis un gars extrêmement timide. J'essaie le plus possible de corriger cette timidité-là quand c'est des gens que je connais pas. Quand c'est des gens que je connais, je suis capable de les envoyer chier.
Ouais.
Mais quand c'est des gens que je connais pas, je suis très timide. Puis, mais les gens qui arrivent avec une belle attitude puis qui jasent avec tout le monde, mais on dirait que ces gens-là ont quelque chose à cacher.